19h. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, eh bien, il y a Sophie ce soir. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Il y a aussi Pierre à la technique.
Bonsoir.
Et puis on envoie plein de bisous à Philippe qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Alors dans cette émission, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va entendre Dorine qui représente l'association Asile et Partage. Et puis nous parlerons de l'actualité des droits humains et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, nous commençons par l'éditorial que Philippe nous avait concocté. Nous allons parler de la politique d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Après un travail de recherche de près de 4 ans, Amnesty International vient de publier un rapport accablant intitulé « L'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ». Sur la base d'une analyse juridique et d'une enquête de terrain minutieuse, il documente la mise en place par Israël, à travers des lois et des politiques discriminatoires, d'un système d'oppression institutionnalisé à l'encontre du peuple palestinien.
Mais déjà, dans un premier temps, Valérie, est-ce que tu peux nous préciser ce terme d'apartheid, ce que ça signifie?
Eh bien, il s'agit d'un crime contre l'humanité défini par la Convention sur l'apartheid de 1973 et le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Le seuil pour définir un tel crime est atteint lorsque trois critères principaux sont réunis. Un système officialisé de domination d'un groupe racial par un autre, un ou des actes inhumains tels que transfert forcé de population, torture et meurtre, et une intention de maintenir cette domination. Attention, lorsqu'on utilise le mot race ou racial en droit international, cela inclut la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.
Et comment se traduit concrètement cette politique alors d'apartheid ?
Alors ça se traduit au moyen de lois, de stratégies et de pratiques. L'État d'Israël a instauré progressivement un système dans lequel les Palestiniens sont traités comme un groupe inférieur, discriminé sur tous les plans, économique, politique, social, culturel. Ces restrictions ont un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne des populations et les conséquences peuvent s'avérer désastreuses pour l'accès à des soins ou à un emploi ou pour une vie de famille normale.
Les Israéliens n'hésitent pas à faire un usage disproportionné de la force pour maintenir le statu quo, n'est-ce pas ?
Oui. Par exemple, en 2018, les habitants de la bande de Gaza ont commencé à organiser des manifestations hebdomadaires le long de la frontière avec Israël pour exiger la fin du blocus et revendiquer le droit au retour des réfugiés. Avant même le début des manifestations, de hauts responsables militaires avaient averti que tout Palestinien s'approchant du mur serait visé par des tirs. À la fin de l'année 2019, les forces israéliennes avaient tué 214 civils, dont 46 enfants.
Et je pense aussi, ou je crois, la population palestinienne est considérée comme une menace démographique.
En 2018, toujours l'adoption d'une loi constitutionnelle qui, pour la première fois, définissait Israël comme étant exclusivement l'État-nation du peuple juif, a consacré les privilèges des citoyens juifs en termes d'obtention de nationalité et une volonté de discrimination à l'encontre de la population palestinienne. Cette loi établit notamment le développement des colonies juives comme une valeur nationale et l'hébreu comme seule langue officielle, retirant ainsi à l'arabe son statut de langue reconnue. L'expansion permanente des colonies illégales dans les territoires occupés est ainsi encouragée par les autorités israéliennes.
Et ce n'est pas tout, les Palestiniens sont chassés de leurs terres.
Dans le Negev, à Jérusalem-Est et dans une partie de la Cisjordanie occupée, les autorités israéliennes refusent d'accorder des permis de construire aux Palestiniens, ce qui les force à bâtir des structures illégales qui sont démolies régulièrement. On compte plusieurs centaines de milliers de logements et de bâtiments palestiniens détruits à ce jour. Au sud d'Israël, de grandes réserves naturelles et des zones militaires de tir ont été créées avec l'objectif de permettre à des habitants juifs israéliens de s'y installer et d'y développer une activité. Ces politiques ont eu des conséquences dramatiques pour les dizaines de milliers de bédouins palestiniens qui vivent dans la région.
On observe aussi une restriction draconienne des déplacements.
Un réseau de checkpoints militaires, de barrages routiers, de clôtures et d'autres structures contrôle la circulation des populations et limite leurs allées et venues en Israël ou à l'étranger. Un mur de 700 km qu'Israël continue de prolonger isole les communautés à l'intérieur de zones militaires. Actuellement, les Palestiniens doivent obtenir plusieurs autorisations spéciales à chaque fois qu'ils veulent quitter leur lieu de résidence ou y revenir. Dans la bande de Gaza, plus de 2 millions de personnes personnes subissent un blocus imposé par Israël. Rien ne peut justifier un tel système reposant sur l'oppression institutionnalisée. L'apartheid n'a pas sa place dans notre monde.
Non.
Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et nous allons maintenant accueillir Dorine de l'association Asile et Partage. Merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux nous présenter ton association ?
Alors Asile et Partage, c'est une association angevine qui comprend une quinzaine de bénévoles actifs qui accompagnent cette année 43 jeunes mineurs isolés étrangers ou jeunes majeurs qui ne sont plus pris en charge par le conseil départemental, soit parce que leur minorité a été contestée, soit parce qu'ils ont eu 18 ans et le département n'a pas donné suite. Pour beaucoup, ils avaient été reconnus mineurs dans d'autres départements et Angers a contesté leur minorité, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés à la rue.
Mmh. Elle existe depuis combien de temps, cette association, tu le sais ?
Elle est active depuis 2015, vraiment dédiée aux mineurs non accompagnés.
Oui, d'accord. Alors, la situation à Angers, tu parles d'une quarantaine de jeunes, alors, garçons et filles ?
Oui, alors, 43 pour notre part, mais ensuite, chaque semaine, presque, j'ai envie de dire, il y a des nouveaux jeunes qui pourraient rejoindre les bancs de notre association. Majoritairement, quand même, des garçons, puisque dans la migration de ces jeunes-là, c'est 95% vont être des garçons. Donc, on a 4-5 filles dans le lot. Et ils sont âgés de 16 à 21 ans maintenant, je dirais, nos jeunes.
Et leur pays d'origine ?
Alors, majoritairement Afrique de l'Ouest, donc Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et on a quelques jeunes pakistanais et afghans depuis 2 ans environ.
D'accord.
Et comment on peut arriver à contester la minorité des jeunes ?
Alors, le conseil départemental fait une évaluation donc dite de la minorité de l'isolement. Avec une trame officielle donnée par l'État, enfin chaque département est censé avoir la même, on vient vérifier l'état civil et on pose des questions environ une heure et demie pour comprendre le parcours du jeune, sa vie au pays et vérifier en fait si les réponses sont dites d'un jeune. Alors c'est très subjectif et ce qu'on remarque dans les refus d'évaluation, c'est qu'il y a une énorme part qui est du physique en fait, avec des
donc
jugements.
Donc c'est subjectif.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de contrôle médicalisé autour de...
Dans d'autres départements, il y a les tests osseux. Le Maine-et-Loire ne le fait pas et heureusement, puisque c'est très controversé, il y a des médecins, beaucoup, qui disent qu'il y a des marges d'erreur presque pour certains jeunes de 2 ans. Donc quand on veut prouver qu'on en a 17, c'est compliqué.
Oui.
Mais le Maine-et-Loire ne le fait pas.
D'accord.
Très bien.
Donc je suppose que quand ces jeunes arrivent, avec le fait de ne pas être connus mineurs, le premier souci c'est l'hébergement, être à l'abri, avoir un toit. Comment faites-vous ?
Alors oui, effectivement, la question de l'hébergement, ce qui est rigolo entre guillemets, c'est qu'eux ils demandent surtout d'abord est-ce que je vais quand même pouvoir aller à l'école ? Ça a l'air de les préoccuper encore plus que l'hébergement, parce que pour beaucoup ils viennent beaucoup aussi pour ça en Europe. Alors la question de l'hébergement, donc là on a actuellement une vingtaine de jeunes qui sont hébergés dans un squat, donc une maison qui a été réquisitionnée dans la commune à côté d'Angers. Et puis après il y en a d'autres qui sont soit dans des familles d'accueil qu'on a réussi à trouver depuis 2 ans, et pour d'autres dans des appartements dans lesquels ils étaient en fait quand ils étaient pris en charge par le département et dans lesquels ils se maintiennent parce que pour l'instant on n'a pas d'autre solution pour eux. Mais c'est notre gros souci depuis je dirais au moins une année voire plus, c'est ça, c'est d'avoir des jeunes qui arrivent et de rien avoir à leur proposer. Quand il y avait la Grande Ourse, ça servait beaucoup de passerelle un peu, on pouvait les emmener là-bas le temps de trouver d'autres solutions. Aujourd'hui on n'est plus à pas savoir du tout quoi faire pour eux et donc ils partent d'Angers en fait, puisque quand on n'a rien à leur proposer, ils ne vont pas rester ici à la rue.
Donc là, tu as parlé donc de ce squat. Je crois savoir qu'il va bientôt être fermé.
Mmh. Alors ça fait un moment que déjà ça devrait être fermé puisque c'est une zone qui est en construction tout autour, donc à un moment oui ça va être voué à être démoli. Pour l'instant les travaux ont pris pas mal de retard, donc on n'a pas de date exacte, on sera averti à l'avance, mais bien sûr qu'il y aura une fin imminemment.
Alors qu'on peut quand même saluer je crois le maire de ce village qui a entre guillemets protégé le squat, quoi, pour pas que ces jeunes se retrouvent à la rue.
Oui.
Voilà, heureusement qu'il était là.
C'est sûr.
Pas sûr qu'à Angers, il serait passé la même chose.
Oh, c'est sûr que non, même.
Sûr que non.
Et autrement, est-ce qu'il y a des nuits d'hôtellerie qui sont payées par le département, par exemple ?
Alors, par le département, non, puisque le département n'en veut plus. Des fois, on arrive à obtenir des prises en charge par le 115, mais c'est très compliqué, puisque c'est un dispositif qui, de fait, est saturé. Donc, c'est compliqué. Et en plus, normalement, les mineurs n'ont pas accès à ce dispositif-là.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire.
Problème.
Ouais. Alors, le 115, pour les gens qui nous écoutent, c'est le lieu d'hébergement d'Angers, qui était avant un lieu d'hébergement d'urgence. Voilà, c'était pour une nuit, alors que maintenant, depuis la crise sanitaire, ce sont à peu près les mêmes personnes qui viennent. Voilà, c'est régulé de façon un peu différente. En tout cas, de tout temps, les mineurs ne pouvaient être hébergés à ce lieu-là, là, au 115, comme on l'appelle, alors que ça veut dire qu'ils se retrouvaient à la rue, quoi, ce qui était absolument abominable, alors que s'il était majeur, il pouvait avoir sa place au 115. Donc les plus jeunes, les plus fragiles se retrouvaient à la rue.
Et puis c'est très paradoxal, puisqu'ils sortent du département, on leur dit « tu n'es pas mineur », donc ils considèrent être majeur, et ils vont là-bas et on leur dit « tu n'es pas majeur, donc tu ne rentres pas
voilà,
ici ».
Voilà, c'est ça.
Voilà tout le problème.
Ouais. Et autrement, ils sont scolarisés pour certains ?
Alors, les 43 jeunes que j'évoque sont scolarisés. Ça a été une des grosses parties de notre travail avec Asile et Partage depuis 4-5 ans. Au départ, en fait, étant donné qu'il n'y avait pas d'accès à la scolarisation dans le public, on a beaucoup été vers le privé qui a ouvert ses portes.
Oui.
Et au fur et à mesure, on a réussi à atteindre ce nombre-là de 43 jeunes scolarisés. Donc, surtout dans des formations professionnelles, puisque c'est les filières qu'ils souhaitent, mais aussi parce que c'est les filières de la régularisation, puisqu'il faut avoir un CAP ou un bac pro professionnel pour obtenir des papiers plus tard.
Ah, d'accord.
Donc, tu me parlais, ou Béatrice, qu'on salue, me parlais d'un lycée pro sur Trélazé, mais également le lycée privé, hein, parce que tu parlais du privé, hein, qui avait apporté des chances supplémentaires, qui se trouve au-dessus du CHU.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a donc ces deux lycées-là et d'autres qui, heureusement, en fait, nous permettent de scolariser chez jeunes quasi gratuitement, avec une prise en charge à minima de la cantine ou au moins de la moitié des frais, des fois même des internats dans certains lycées. Et c'est sûr que sans cette main tendue des établissements, on ne pourrait absolument pas fournir, puisqu'en fait l'association elle n'existe qu'à travers des dons de particuliers, il n'y a pas du tout de subvention ou autre de l'État ou de la mairie. Et il faut savoir que par exemple dans le privé, une scolarité c'est 1700 euros l'année, donc si ce n'était pas gratuit, les jeunes n'y seraient pas.
Bah, je pense effectivement en frais de scolarité, mais également surtout en lycée. Je pense qu'il y a besoin de matériel aussi, non ?
Alors ça, c'est sûr que c'est pris en charge. Nous, les choses qu'on prend en charge, c'est les transports. Donc, on a financé là pour plus de 2500 euros les cartes de bus Irigo, avec une partie à 50% financée par le Secours catholique, qui est un vrai allié dans toute cette lutte là pour les MNA, les mineurs non accompagnés. Et ensuite, voilà tout ce qui est fourniture scolaire avec le Secours populaire. Enfin, on a des partenariats qui permettent de scolariser quand même.
Et puisqu'on parle du Secours populaire, on peut peut-être faire le lien avec les autres associations alors. Donc le Secours populaire, je pense à Franck, qui...
Secours catholique,
autant pour moi. Au Secours catholique, voilà, puisque je crois savoir que Franck peut aider pour monter les dossiers.
Oui, alors là, c'est la grande thématique en ce moment, c'est la confection de dossiers du coup de régularisation en préfecture. On est en plein dedans, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en fin de parcours de scolarité et qui ont des patrons qui veulent vraiment les soutenir, donc les prendre soit en apprentissage, soit pour travailler. Par contre, le souci auquel on est confronté là, c'est que la préfecture, c'est un peu la loterie. On a eu des situations pour qui ça a fonctionné et d'autres non, avec des dossiers assez similaires. Donc, c'est pas simple de savoir s'il faut envoyer le jeune en préfecture.
En gros, c'est aléatoire, quoi.
On n'a pas la même logique, forcément. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
Donc, on parlait du Secours catholique. Donc, d'autres associations ?
Oui, alors après, il y a le Secours populaire, les Restos du Cœur et la Banque alimentaire pour toutes les questions d'alimentation. Notamment à la Vendange, il y a des ravitaillements chaque
semaine.
Donc,
la Vendange, c'est le nom du squat ?
C'est ça. Et pour les jeunes qui ne sont pas à la Vendange, ces associations-là aussi nous aident. Il y a Médecins du Monde pour toutes les questions de santé. Emmaüs a été aussi très en soutien pour tout ce qui est plus mobilier, matériel et même des aides financières. Et puis après, il y a des citoyens qui font des dons à l'association, des lycées qui soutiennent, des professeurs qui hébergent aussi des fois. Voilà.
Alors tu parlais de la Grande Ourse tout à l'heure. Alors pour rappel, la Grande Ourse, c'était ce squat tout au bord de la Maine, près du centre-ville, qui existe toujours d'une autre façon.
Oui, le collectif
pas sous forme
existe
de
toujours.
Squat, mais voilà, il y a un collectif et qui permettait justement d'héberger ces jeunes-là qui arrivaient en attendant de trouver une solution. Vous êtes toujours en lien avec eux ?
Oui, le collectif existe toujours et il a, malgré l'expulsion, ça a vu naître aussi d'autres choses. C'est très long à expliquer, mais effectivement, il y a toujours une frépisserie, donc pour avoir de la nourriture, des habits gratuits, un garage associatif, une école, une auto-école associative. Il y a beaucoup de choses qui sont nées.
Une partie agriculture aussi.
Oui, avec l'horreur. Ouais.
Ouais, super. D'accord. Et la coordination migrants. Alors, je crois que Sophie, toi, tu connais aussi, puisque notre groupe Amnestien participe.
C'est très large.
Vous pouvez en parler un petit peu.
Bon, il y a une trentaine de structures à peu près qui participent à la coordination migrants et qui envisagent, qui se coordonnent, comme on dit, ou qui il y a des échanges d'informations sur différents sujets, que ce soit le logement, mais aussi le travail, mais aussi le droit, etc. Donc c'est vrai, un certain nombre de points qui sont vus comme ça, mais sûrement pour les personnes, les mineurs non accompagnés, il y a besoin de faire une dynamique aussi autour de ça.
Qu'est-ce que j'aime cette transition, parce que justement, il y a en projet une coordination, la création d'une coordination spécifique pour les mineurs. C'est bien ça ?
Oui, c'est vrai. Là, depuis 2 mois, ça fait 2 réunions qu'on se retrouve en essayant d'élargir un peu le réseau pour effectivement voir comment coordonner toutes les actions qui sont faites, histoire
autour
que ça
personnes.
Soit coordonné.
Et je crois que ça existe à Nantes ou c'est en train de se créer à Nantes ?
Alors, Nantes, c'est une ville beaucoup plus socialiste qu'Angers, j'ai envie de dire, donc qui forcément voit naître des dispositifs plus humains. Notamment, là, récemment, il y a eu une ouverture d'un lieu d'accueil pour les jeunes en recours. Ça, c'est quelque chose qu'on demande sur Angers depuis des années et des années. Et effectivement, Nantes a un tissu associatif aussi assez important. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une coordination qui s'est créée bien avant nous.
Mais éventuellement, ils peuvent donner des coups de main, des idées.
Oui, etc. Ça pourrait nous servir d'exemple aussi.
Super.
Et vous êtes assez nombreux comme bénévoles au sein de votre association ou...
Alors, on pourrait toujours avoir besoin de bénévoles. Ce qui est plus compliqué, c'est que ça nécessite aussi de la coordination et d'avoir quelques petites connaissances. Mais ça pourrait toujours être intéressant.
Vous les formez un petit peu quand ils arrivent, peut-être ?
Oui.
Une dernière question avant celle de Sophie. Vous avez besoin de sous, évidemment. Donc, il y a un événement concert, je crois, en préparation.
Alors, le Covid a un peu freiné ça, mais on va essayer, oui, de remettre ça en place, parce qu'il y a des musiciens au sein de l'association.
Et autrement, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut vous joindre et quelles sont les démarches à faire pour aller vers vous, que ce soit pour la donation ou pour le bénévolat?
Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle Asile et Partage Angers. Il y a l'adresse mail asileetpartage@gmail.com et il y a la cagnotte Hello Asso si on tape aussi Asile et Partage.
Ah oui, ça c'est important.
Hello Asso, c'est avec H-E-2-L-O.
C'est ça.
Ouais. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Dorine.
Merci.
Ça va être l'heure de notre pause. Alors aujourd'hui, pas de pause musicale, mais Pierre nous a concocté une pause poétique. Écoutez bien.
Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre. Sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
Oh, vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'entendre la voix vibrante de Paul Éluard, le poète lui-même, qui proférait son fameux poème « Liberté, j'écris ton nom ». Vous êtes donc toujours sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains, Sophie.
Oui, depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, l'aide internationale qui finançait environ 80% du budget afghan a été interrompue. Ainsi, nous observons que plus de la moitié de la population, selon l'ONU, soit 23 millions de personnes, sont menacées par la faim, et particulièrement les enfants. Le chômage a explosé et les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. Cette crise humanitaire a poussé les talibans à demander à nouveau de l'aide. Des vivres ont commencé à arriver à Kaboul et une résolution de l'ONU a été adoptée, favorisant la distribution de nourriture pendant un an. Les talibans sont aussi en quête de légitimité. Pour l'heure, aucun État ne les reconnaît officiellement.
Et voici un exemple dramatique de ce qui se passe en Afghanistan. Plutôt mourir que de me taire, c'est ce que dit Rokhshana Rezaï, traquée par les talibans parce qu'elle se bat pour les droits des femmes, alors que les fondamentalistes islamistes redoublent de répression à l'égard des activistes féministes. Pourtant, Rokhshana ne réclame que le droit d'étudier, de travailler, s'impliquer dans la vie politique, de disposer de son corps, de ne pas le cacher sous une burqa, de circuler dans l'espace public, de voyager seule, bref, le droit d'être libre, d'être elle-même et de vivre. Et bien, depuis deux semaines, elle vit cachée telle une criminelle en cavale, quelque part loin de Kaboul.
La France préside depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne, une première depuis 2008. Cette présidence, qui va durer 6 mois, se tient dans un contexte inquiétant. L'état de droit, c'est-à-dire le respect des valeurs et libertés fondamentales que porte l'Union européenne depuis sa création, est sérieusement menacé en Hongrie et en Pologne. Les attaques se multiplient contre l'indépendance de la justice, la liberté d'expression et de la presse, le droit de manifester. Les discriminations de genre s'aggravent. Les droits des migrants et des demandeurs d'asile sont régulièrement violés par les États européens. Et comme l'a révélé l'affaire Pegasus, la surveillance numérique est un vrai danger et le secteur doit être régulé. La France doit s'engager pendant sa présidence à tout faire pour défendre les droits en Europe.
Eh oui, déjà en France. En janvier 2022, le Kazakhstan a connu l'une des crises les plus importantes de son histoire récente. D'immenses manifestations ont gagné le pays et ont été réprimées par les autorités. Des tirs de grenades, gaz lacrymogènes et tirs à balles réelles par la police. Des morts et des blessés, donc des disparitions, des arrestations. Une population coupée du monde. Un mois après les manifestations, le calme semble rétabli. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. De nombreuses violations des droits humains ont été commises en toute impunité, sans enquête indépendante. Aujourd'hui, Amnesty appelle le président kazakh, qui s'appelle Tokayev, à enfin faire la lumière sur ce qui s'est passé.
Le 4 février a marqué le début des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Personne ne peut douter de cela. Un événement sportif très médiatisé que la Chine utilise pour redorer son image. Il est bon de rappeler toutefois que le gouvernement continue à bafouer la liberté d'expression et à se rendre responsable de violations terribles des droits humains, notamment d'atrocités envers les Ouïghours et autres minorités musulmanes, discrimination, atteinte aux libertés de religion et d'expression, surveillance de la population. Les Chinois et les Chinoises sont soumis à des niveaux extrêmes de censure et de contrôle. Amnesty continue à les dénoncer.
Toujours en relation avec la Chine, le 20 janvier dernier, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution sur la reconnaissance du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l'humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours. Le vote en faveur de cette résolution est un signal fort de la part des représentants politiques français en soutien au combat des Ouïghours pour mettre fin aux atrocités dont ils sont victimes. C'est une prise de position très ferme vis-à-vis de la Chine. C'est une étape majeure par sa portée symbolique.
Et pour finir, deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, un tribunal allemand vient de condamner Anwar Raslan pour crime contre l'humanité. Cet ancien responsable des services de renseignement syriens a été condamné à la réclusion à perpétuité par la Haute Cour régionale de Coblence. Il a notamment été reconnu coupable de torture, meurtre et viol de détenus dans la branche 251, un centre de détention géré par le renseignement militaire à Damas. Le verdict rendu est une victoire historique qui permet d'entendre la voix des dizaines de milliers de victimes en Syrie.
Et la seconde excellente nouvelle, c'est celle d'Athéna Daemi, pardon, qui après 5 ans d'emprisonnement vient d'être libérée. Eh bien, Athéna, on la connaît bien. Elle militait pour l'abolition de la peine de mort en Iran, ce qui lui avait valu torture, isolement et prison. Je crois qu'elle avait fait aussi une grève de la faim très longue. Voilà. Eh bien, elle a été libérée. Cette victoire, c'est aussi la vôtre. Athéna faisait en fait partie des cas choisis par Amnesty pour les signatures. Eh bien, rien qu'en France, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées pour exiger sa libération. Alors ça veut dire que les pétitions Amnesty, ça fonctionne, marche. Ça marche, tout à fait. Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Il est 19h27 et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Temps d'échange et table ronde sur la précarité et la démocratie, le jeudi 22 février à 18h30 à l'amphi Volnay, 13 allée François Mitterrand. Ça s'appelle « Partons en campagne pour le pouvoir de vivre ».
Concert pour la Palestine, proposé par Al-Kamandjati, le samedi 24 février au Shabada. C'est un concert exceptionnel qui réunira la Caravane Pass, M. Carlos et Tomahawk.
Théâtre au Carnet avec la pièce Migrante.
Avec plein de A.
Oui, le samedi 5 mars à 20h ou bien le dimanche 6 à 15h, présenté par la compagnie de L'Envol, en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme du 49.
Ensuite, du 8 au 12 mars, festival égalitaire, organisé au centre Jean Villard par l'association Femmes d'ici, et d'ailleurs une excellente association. Au programme, des projections de films, des spectacles de contes et de marionnettes, des concerts, mais aussi des ateliers et des conférences. Si vous voulez le programme précis, allez sur la page Facebook de l'association Femmes d'ici, et d'ailleurs à Angers. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un livre. Un livre sur l'exil, écrit par Marie Cosnet, dont le titre est « Des îles ». Cette autrice mène depuis de nombreuses années une activité militante. Elle accueille et accompagne les exilés qui passent par la frontière basque. Depuis 2020, Marie Cosnet reçoit de plus en plus d'appels liés à des disparitions. Des familles cherchent leurs proches partis sur la route dont ils n'ont plus de nouvelles. Ce livre, entièrement traversé par les notions de frontières et d'enquête, est d'une force littéraire et politique saisissante. Si cela vous intéresse, vous trouverez ce livre dans l'excellente librairie angevine Myriagone.
Très bien.
Eh bien, il est presque 19h30. C'est le temps de conclure cette émission et de remercier Dorine pour sa venue à l'émission. N'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr et vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page d'Amnesty Angers. Bonne soirée et vivons joyeux.
À bientôt.
Bonne soirée.